Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Avec le Gratin, je vous emmène toutes les semaines à la rencontre de personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres. Des chercheurs, entrepreneurs, businessmen, athlètes ou scientifiques qui ont tous un point commun, être parmi les meilleurs au monde dans leur domaine. L'objectif de tout ça, vous aider via ces mentors virtuels à devenir la meilleure version de vous-même. Cette semaine, je reçois sur le Gratin une grande dame du monde des finances, Christine Novakovic, présidente du directoire de la banque UBS en Europe. Si vous souhaitez retrouver Christine sur le monde merveilleux du web, eh bien d'abord allez faire un tour sur le site d'UBS, bien sûr, et puis pourquoi pas également sur son compte LinkedIn personnel, que je vous mets bien évidemment dans les notes de l'épisode. Je préfère vous prévenir, je trépignais littéralement d'impatience à l'idée de faire cette interview parce que Christine est vraiment, mais vraiment, un personnage hors du commun. Une femme passionnée, une femme entière, une femme vraie, à l'encontre de l'image qu'on peut parfois d'ailleurs avoir du monde de la finance. Née dans un petit village du Tyrol, en Italie du Nord, on peut dire que rien ne l'a prédestinée à faire une grande carrière dans le monde bancaire. Ses premières amours l'emmènent plutôt vers le monde de la musique et de l'art. Et c'est sa maman qui l'incite plutôt à faire un choix de raison et opter pour des études d'économie où elle finira par s'épanouir pleinement. Je crois que c'est vraiment cette tension entre esprit d'analyse et sens de l'empathie qui a fait de Christine un vrai modèle de leadership. Comme le disent ses collaborateurs avec qui j'ai longuement parlé pour préparer cette interview, Christine brille comme problem solver. Elle avoue elle-même qu'elle aime les situations difficiles et nous expliquera durant l'épisode que résoudre des problèmes ne passe pas par une analyse top-down, mais bien au contraire par un dialogue et l'exemplarité, deux conditions indispensables pour créer un environnement vers la réussite. Un dernier détail avant de passer à l'interview, Christine, vous le verrez, parle couramment allemand, anglais, italien et français. Et durant l'épisode, on va de temps en temps, je m'en excuse, utiliser quelques anglicismes, parce qu'au sein des quatre langues, il faut vous le dire, le français est sans doute peut-être celle que Christine a le moins l'habitude de pratiquer. Je voulais d'ailleurs au passage la remercier ici d'avoir accepté pour le gratin de faire cet effort. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Christine Novakovic. Bonjour Christine, je suis ravie de vous accueillir sur le gratin.
Bonjour Pauline, je suis ravie aussi.
C'est un grand, grand honneur pour moi. Je vous remercie en plus d'avoir accepté cette invitation à distance. Je voulais commencer, Christine, par parler de leadership. J'ai vu que vous aviez beaucoup, beaucoup réfléchi et beaucoup écrit à ce sujet. Et je suis tombée sur une phrase. Je vais vous la lire. Je veux bien que vous m'expliquiez ce que vous vouliez dire par là. La phrase, c'était « walk the talk ». L'exemplarité, il faut être en première ligne, surtout dans les situations difficiles. La confiance, vous devez d'abord l'accorder aux autres avant de l'attendre en retour. Personnellement, j'adore cette phrase. Est-ce que vous pourriez développer et peut-être me donner un cas concret où vous avez pu appliquer cette idée?
Oui, bon, d'abord, merci beaucoup d'avoir recherché et lire beaucoup de choses sur moi. Et
tout c'était le truc passionnant.
C'est vrai? Bon, merci. Moi aussi. Bon, c'est très simple. Je crois qu'une fois que on a compris que c'est l'équipe qui décide si comme leader on a du succès ou pas, ça change la mentalité ou ça change la manière d'interagir avec l'équipe. Donc, si on veut que l'équipe te soutient et que l'équipe travaille pour toi, il faut que tu donnes un esprit de, comment est-ce que je peux dire, de confiance. Et donner confiance est quelque chose de très, très risqué parce qu'on ne sait jamais il faut jamais la, il faut toujours la donner avant de recevoir la confiance. Donc c'est toujours une procès assez difficile et il faut risquer quelque chose pour recevoir beaucoup de, disons, loyauté, beaucoup de énergie de l'équipe. Et donc pour moi, c'est surtout dans des situations très difficiles parce que au moment d'une situation difficile, c'est très facile de mettre de la pression sur l'équipe. Et ça, c'est une grande faute, c'est une grande erreur. Parce qu'au moment difficile, l'équipe a besoin de calme, de temps pour travailler, pour comprendre en quelle direction marcher. Et donc, c'est plus important dans le moment difficile de tenir la pression au niveau du patron. C'est très, très important.
Bien sûr.
Et au moment que l'équipe comprend ça, au moment que l'équipe voit que dans le moment difficile, ils ne sont pas seuls et que dans le moment difficile, c'est le patron qui prend la pression et que c'est le patron qui vraiment prend la responsabilité.
Ouais.
Alors ça, c'est le moment que l'équipe tient une grande énergie, commence à se battre pour toi et commence à travailler pour toi. Et alors là, on peut, il n'y a rien qui est impossible. Hein. À ce moment-là, le moment qu'il y a l'équipe, le patron qui parle la même langue et qui ont le même objectif, c'est incroyable ce que l'on peut faire.
Et Christine, vous avez un exemple dont vous pourriez nous parler où vous avez, parce que je sais, on vous appelle la femme des moments difficiles, c'est ce que l'un de vos collaborateurs m'a dit. Est-ce qu'il y a un moment comme ça qui vous vient à l'esprit où vous avez dû justement faire preuve d'exemplarité? J'adore cette idée de dire le leader doit se sentir responsable justement de ses équipes et au contraire ne pas mettre ses équipes devant le fait accompli ou ne pas les mettre en première ligne. C'est un peu comme l'image, vous savez, du général à l'armée qui part devant, quoi. Qui part devant. Et est-ce que vous avez un exemple peut-être pour vous-même ou pour quelqu'un que vous auriez admiré qui a fait ça, de cette exemplarité, en tout cas que vous avez essayé de vous imposer et du coup de ce sentiment que vous me décrivez très très bien, ensuite d'énergie, d'esprit de corps, d'esprit d'équipe, où parce que vous avez fait quelque chose avec ce vrai leadership, finalement l'équipe derrière s'est soudée et vous a suivi?
Bon, il y a maintenant à peu près 3 ans que j'ai pris un rôle nouveau dans la banque. Et je suis maintenant responsable de la banque privée en Europe. Et je suis aussi le PDG de UBS Europe avec la base en Francfort. Et Europe était toujours un marché, une région très, très difficile. Parce que si vous regardez la manière de croître des marchés en Amérique ou en Asie, en Europe, ils sont totalement différents. L'Asie avait des taux de croissance incroyables pendant les dernières 10 ans, 20 ans. L'Amérique aussi, et c'était vraiment la vieille Europe qui était un peu, disons, un peu calme sur tout ce qui est le développement, la croissance économique. Et dès que je suis responsable maintenant de la banque privée en Europe, il y avait vraiment la question comment est-ce qu'on peut croître, comment est-ce qu'on peut être profitable dans un environnement qui est très complexe parce que chaque pays en Europe a ses règles, a ses lois, a des problèmes au niveau de déficit d'État, etc. Et j'ai vu que chaque pays avait des problèmes à soi-même et qu'on ne pouvait pas prendre une stratégie pour l'Europe et l'appliquer à chaque pays. Alors, j'ai voyagé beaucoup, j'ai parlé avec mes équipes dans les différents pays et j'ai compris que chaque pays avait eu un point de départ pour la nouvelle stratégie complètement différent et que oui, c'est vrai, dans quelques pays, on avait des problèmes, mais les problèmes, c'était pas à cause de l'équipe, c'était vraiment beaucoup de fois à cause de changement des lois, à cause de la crise, toujours de la crise de 2008. Et le moment que l'équipe a compris que je suis là pour écouter, que je suis là pour comprendre et surtout pour comprendre pourquoi on est dans la situation dont on était et pas pour juger, mais seulement pour comprendre, pour trouver une solution avec eux à comment changer et croître. Alors là, tout d'un coup, ils étaient extrêmement motivés à aider à devenir plus profitable. Je peux dire maintenant, après deux ans et demi, on est une région très, très profitable. On est en région avec une équipe formidable, une équipe très motivée qui a compris que le succès est basé sur une collaboration extrêmement forte entre eux, avec moi, mais surtout entre eux, et que le résultat qu'on a eu maintenant, c'est grâce à leur énergie, à leur force, mais surtout à le fait qu'ils croyaient qu'on peut devenir profitable. Et donc, c'est toujours travailler avec les gens. Ce n'est pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais toujours trouver les solutions ensemble, travailler ensemble, prendre la responsabilité, surtout des faillites. Et donc, je peux vous dire que si, par exemple, un pays ne réussit pas, je ne crois pas que je tournerai et je donnerai la responsabilité de ça à l'équipe. Ouais. C'est moi aussi, parce que j'ai décidé avec l'équipe de choisir une stratégie. Donc, moi, je suis responsable aussi. Et je crois même que mon équipe savent bien ça.
C'est ça. C'est-à-dire que finalement, ce que vous dites, c'est que le chef, c'est celui qui est le plus responsable. C'est celui qui, en cas d'échec, finalement, doit porter la responsabilité.
Absolument. Ouais.
Et pour créer ce sentiment de corps, Christine, alors que, comme vous dites, en plus, en Europe, il y a beaucoup de pays, des cultures différentes. Comment est-ce que vous avez essayé de procéder? Est-ce que vous pourriez me parler peut-être des 6 premiers mois quand vous êtes arrivé à ce nouveau poste chez UBS, justement, alors qu'à l'époque, en plus, la situation n'était pas simple en Europe, comme vous disiez, dans la vieille Europe. Comment est-ce que vous avez fait pour créer ce sentiment de confiance, pour donner cette confiance et créer ce sentiment de loyauté très fort qu'on ressent aujourd'hui?
Vous savez, dans des grandes entreprises, il y a toujours je dis pas le problème, mais il y a certaines fois des situations où il y a quelqu'un qui vient de la centrale et dit à les équipes ce qu'ils doivent faire parce qu'on pense qu'en centrale, on savent tout. Ouais. Et exactement. Alors, ce que je fais, et je crois ce que m'aide, c'est que je suis italienne, je parle anglais, allemand, anglais, je parle aussi un peu de espagnol et français. Et donc, ça veut dire, parce que je crois que si vous parlez la langue, vous comprenez la culture. Parce que la culture, c'est vraiment, elle est dans la langue. Donc, si vous parlez beaucoup de langues, ça vous ouvre pour des cultures différentes. Et donc, quand j'étais avec mon équipe italienne ou anglaise ou autrichienne, c'était important pour eux de savoir que je comprends leur manière différente de travailler, leur manière différente de prendre des décisions, parce que la manière comme des Suisses prennent les décisions est totalement différente de la manière des Italiens ou des Allemands. Et pour moi, c'était très important de comprendre la dynamique des teams, de l'équipe. Et donc, les premiers 6 mois, pour moi, c'était vraiment important de comprendre pourquoi on est dans la situation où on était dans chaque pays, comprendre l'équipe, comprendre s'il y avait un problème à l'interne de l'équipe ou si les problèmes étaient dans le marché. Parce que, évidemment, la stratégie, alors, est une autre. Ouais. Et donc, les premiers 6 mois, c'était très, très intensif, fascinant.
Vous voyagez beaucoup.
Beaucoup de dialogues. Et puis, à la fin de ces 6 mois, on avait très clair la stratégie de chaque pays et on a commencé à faire l'exécution sur ce qu'on avait décidé.
Et parce que cette stratégie, elle avait été élaborée de manière collaborative, j'imagine qu'elle a été bien mieux exécutée aussi parce que chaque leader d'équipe dans chaque pays y croyait et se l'était approprié. Alors que bien souvent, le problème dont vous parliez, c'est la stratégie, elle vient du central en haut. Quelqu'un a décidé qu'il faut faire ça, Le problème, c'est que ben, tout le monde se tire un peu dans les jambes parce que on n'y croit pas, qu'on n'a pas envie de se faire imposer sa loi. Donc finalement, j'ai l'impression que le fait de co-créer cette stratégie avec les équipes a vraiment permis de les onboarder dans le processus.
Oui, et j'étais très, très transparente parce que j'ai aussi communiqué que chaque pays était différent. Et puis, il y avait un moment, c'était très, très drôle parce qu'il y avait un moment quand il y a comme une petite compétition entre les pays. Ils savaient bien que chaque pays était différent, stratégie différente, mais au moment, il y avait un certain moment, il y avait une compétition parce que chaque pays voulait être le premier à fournir les résultats. Et c'était là le moment que j'avais compris bien, maintenant on est un team européen, c'est pas seulement la somme de différentes équipes, ouais. Mais c'est vraiment un team au niveau d'Europe. Et je peux dire, par exemple, il y a 2 ans, il y avait 2 pays qui avaient des résultats formidables et 2 autres pays, c'était comme ci, comme ça. Cette année, c'est exactement l'envers. Et il comprend que si tu as une team européenne, il y aura toujours 1 ou 2 pays qui ne marchent pas. Mais si tu as une team européenne, alors c'est toi qui soutiens aussi tes collègues et les autres pays. Et ça, c'était très, très convaincant, très, très fort.
Vous avez parlé aussi, Christine, tout à l'heure de jugement. J'ai beaucoup aimé quand vous avez dit « j'ai compris qu'on était là ». Enfin, je leur ai expliqué qu'on était là pour trouver des solutions et pas pour les juger. Et ça, c'est quelque chose qui est malheureusement assez peu commun, que ce soit dans le monde professionnel ou même dans la vie de tous les jours sur les réseaux sociaux. J'aimerais comprendre si vous pouviez m'expliquer comment s'est passée cette transmission. C'est-à-dire, est-ce que assez simplement, vous êtes allé leur dire « il n'y aura pas de jugement, juste dites-moi les choses telles qu'elles se sont passées, telles que vous les ressentez, telles que vous les analysez. Comment est-ce que vous faites passer ce message qu'il n'y aura pas de jugement ? Parce que souvent, on dit qu'il n'y a pas de jugement, en fait, il y en a, et donc les gens ne le croient pas, et donc il faut créer cette confiance pour que les gens se livrent.
Alors là, il y a 2 choses à dire. La première, c'est que j'étais avec la banque maintenant depuis 15 ans, et donc... Oui. Quand j'ai pris mon nouveau rôle, j'avais déjà une certaine réputation à l'interne de la banque. Donc, ils savaient déjà que c'est un peu ma manière de travailler. Mais je crois que la chose la plus importante, c'est pourquoi j'ai cette manière de travailler. Et ça, c'est parce que une fois dans ma carrière, j'ai eu une expérience terrible. J'avais un patron qui était au niveau de interaction avec une équipe vraiment mauvais, quoi. Il traitait pas bien ses collaborateurs et il était pas fair. Et quand j'étais dans ces situations, j'étais assez jeune, mais je me disais toujours, le jour que je suis patronne d'une équipe, je ferai pas ça. Parce que savoir comme tu te sens, comme un collaborateur se sent quand il n'est pas traité bien, pas traité fair, c'est une leçon très importante. Et dès ce jour-là, j'ai compris que les personnes sont toujours là pour travailler et faire un bon travail. Je ne crois pas que quelqu'un se réveille le matin et dit « bon, aujourd'hui, je vais au boulot et je fais un mauvais travail ». Ça n'existe pas. Je
crois que
chaque personne, exactement, chaque personne veut vraiment faire un bon travail, veut être fière de soi-même. Et si on sait ça, on rapproche une équipe différemment. Parce que si on sait ça, on pense peut-être que quelqu'un qui ne performe pas, peut-être il est dans le rôle qui n'est pas juste pour elle ou pour eux. Et donc, c'est la responsabilité de patron de trouver une composition de team qui marche. Donc, si on approche une nouvelle équipe avec une, disons, esprit ouvert et on seulement écoute, et on essaye de comprendre, pas de juger, mais de comprendre, on apprend beaucoup. Et ça fait tout le travail plus simple après.
Bien sûr. Vous avez utilisé le mot « réputation ». Et c'est drôle parce que je pense que beaucoup de gens se soucient de leur réputation. Je sais pas si c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi, si c'était prémédité, je dis pas ça de manière négative, ou si c'est quelque chose qui est arrivé naturellement. Mais effectivement, moi j'ai parlé à certaines personnes de votre équipe et vous avez une réputation. C'est-à-dire que Christine, c'est la femme des moments difficiles, c'est celle qui est dans l'écoute. On a utilisé un autre mot aussi que j'ai trouvé intéressant en anglais, c'est decency, beaucoup de décence, beaucoup d'écoute. Et ça, cette réputation, j'imagine qu'elle se construit dans le temps. Est-ce que, ça fait 15 ans que vous êtes chez UBS maintenant, est-ce que vous pourriez me dire le moment où vous avez pris ce nouveau poste, qui est vraiment un poste à haute responsabilité, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière d'agir parce que maintenant vous aviez encore plus de responsabilités? Peut-être ma question sous-jacente, c'est est-ce qu'à un moment vous avez eu un doute, comme un doute d'un syndrome de l'imposteur ou ce genre de choses? Parce que ça peut souvent arriver quand on prend de nouvelles responsabilités. Et vous, vous aviez construit toute cette réputation, mais vous êtes arrivé maintenant à un autre niveau. Et donc, je voulais savoir, vous, psychologiquement, comment est-ce que vous aviez pris vraiment ce poste?
Vous avez parlé du syndrome d'imposteur. C'est drôle parce que je crois que ça, c'est vraiment un problème. Je l'ai pas, mais je crois que c'est un problème pour beaucoup de femmes. Et je crois que c'est important que les femmes commencent à se décomplexer parce que, par exemple, dans l'industrie des finances, c'est assez facile de voir les résultats et les performances d'une personne, que ce soit femme ou homme. Et donc, par exemple, si vous regardez tous les fonds d'investissement qui sont gérés par femmes, vous voyez que les résultats sont meilleurs que les autres fonds. Donc, les femmes performent autant que les hommes. Il n'y a aucune raison pour ne croire ça. Et c'est vraiment dans notre tête. Et moi, je dis toujours, si mon supérieur, mon patron me donne une nouvelle responsabilité, c'est parce que j'ai fait un bon travail. Mmh. Et donc, c'est pas à moi de douter si je suis la personne la juste pour le nouveau rôle. C'est mon chef qui l'a décidé. Et mon chef, normalement, il doit être plus intelligent que moi, avec plus d'expérience que moi. C'est le courant normal, c'est que qui est plus haut, normalement, a plus d'expérience et peut-être stratégiquement est mieux. Et donc, si quelqu'un sur moi décide que moi, je suis la personne la juste pour la prochaine étape, pourquoi je dois le douter? La chose que je dois faire, de confirmer que oui, avec mon performance, je montre que je suis la personne la juste. Mais j'ai jamais douté si j'étais la personne juste ou pas pour le prochain rôle.
Est-ce que vous avez déjà eu dans vos équipes des personnes qui, eux, ont ce fameux syndrome de l'imposteur, ont des doutes? Et si oui, comment est-ce que vous faites pour leur faire comprendre ce que vous venez de me dire, c'est-à-dire qu'ils sont exactement là où ils doivent être parce que vous l'avez décidé?
Oui, c'est vrai. Et normalement, ce ne sont pas des hommes, ce sont des femmes à avoir ce syndrome, c'est vrai. Et normalement, ce que je dois faire, c'est de lui faire voir les résultats qu'ils ont produits jusqu'à maintenant et lui faire voir pourquoi on pense qu'ils ont les qualités nécessaires pour le prochain rôle. Et normalement, quand on fait ça avec une certaine transparence et on lui explique pourquoi on croit qu'elle peut faire le prochain step, ça marche. Mmh. Donc, je crois de enlever tout ce qui est émotion et I try.
Oui, vous essayez.
Oui, et je crois vraiment d'avoir une communication au niveau de résultats, des performances, de qualité, donc des trucs assez
non subjectifs, objectifs.
Non subjectifs, exactement. Ouais. Merci. Des trucs assez objectifs. Et normalement, après ça, ça marche. Ça aide beaucoup. Parce que d'abord, c'est, le syndrome d'imposteur, c'est vraiment une chose très, très subjective,
ouais.
très, très émotionnelle. Et c'est une question d'avoir des doutes. Et il faut montrer de manière objective qu'il n'y a aucune raison pour avoir ouais. ces doutes.
Bien sûr. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, Christine, vous avez indirectement plus de 5000 personnes sous votre responsabilité au sein de la banque. Donc, c'est absolument colossal. Et je sais, enfin, j'ai l'impression, d'après tout ce que j'ai lu, que vous êtes quelqu'un vraiment qui passe énormément de temps à réfléchir et à travailler sur l'humain, sur les relations humaines, sur ce qu'on appelle les RH en français. Pour vous, au niveau justement RH, quelle est la priorité numéro un ? Qu'est-ce qui finalement a le plus d'importance ? Est-ce que c'est de passer du temps avec les équipes ? Est-ce que c'est de les coacher, de les manager, de passer du temps avec votre leadership ? Est-ce que vous pourriez me dire quel est au niveau vraiment purement humain quand on a, alors j'ai bien compris que ce n'est pas en direct, mais quand on a finalement autant de responsabilités sur de l'humain, quelle est votre priorité principale ?
Bon, mon priorité, c'est que moi, je suis au service de mes collaborateurs. C'est très simple. Je ne suis pas le chef. C'est moi, je suis au service de mes collaborateurs. Ce que ça veut dire, c'est que je suis là pour résoudre leurs problèmes. Parce que si je peux résoudre le problème de mon collaborateur, ils peuvent travailler, ils peuvent ouais. Donner les résultats qu'ils doivent donner. Et donc, si on renverse, si on pense qu'on est le chef et qu'on doit décider, qu'on est là pour commander, ça marche pas. Si on renverse les trucs, parce que normalement, les personnes qui pensent qu'ils sont le chef croient que les collaborateurs sont au service d'elles. Mais c'est ouais. exactement l'envers. C'est le chef qui est au service des collaborateurs. Et donc, s'ils ont un problème, ils viennent, je dois le résoudre. Et ça change complètement l'approche au leadership et l'approche de interaction avec les collaborateurs. Et donc, pour moi, c'est vraiment un truc de... Toujours, je pense toujours comment est-ce que je peux leur aider. Mm. Et il y a certains qui ont besoin de coaching, il y a certains qui ont besoin de que je lui donne des responsabilités et que je fais la délégation. Et chaque personne est différente. Et donc, il n'y a pas une solution universelle pour tout le monde. Parce que moi, normalement, j'adore avoir une équipe très forte avec des personnages et des caractères très forts, que ce n'est pas facile. Gérer ça, ce n'est pas facile. Mais ça veut dire que tu as des personnes autour de toi qui ont leur opinion.
Ouais.
Que peut-être
te contredire, oui.
De contredire que pas tout le monde aime ça. Moi, je l'adore ouais. parce que ce sont les moments où j'apprends. Ce sont ouais. les moments où je peux encore apprendre. Et donc, avoir une équipe avec des caractères forts veut dire que chaque personne a besoin d'un style différent. Et donc, comme chef, je dois de comprendre le caractère individuel et d'adapter mon style au caractère. Je demande pas que mon équipe s'adapte à moi. C'est moi qui m'adapte à leur caractère, à leur manière de travailler, parce que ça leur donne la liberté d'avoir une performance exceptionnelle.
Est-ce qu'un chef, Christine, a le droit de se tromper ? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire quand on se trompe ? Est-ce que ça vous est arrivé ? Est-ce que vous avez un cas où vous pourriez me dire, là, je me suis trompée. Et qu'est-ce que vous dites à vos équipes dans ce genre de cas ?
Bien sûr, parce que le chef est humain. Et je crois que si on croit que le chef ne peut pas se tromper, on fait une grande erreur parce que personne ne veut avoir un hero comme un patron parce que ça te fait peur. Ouais. c'est si bien de savoir que ton patron est humain comme toi. Et la chose la plus importante, c'est de parler à l'équipe et dire, écoute, je me suis trompée, j'ai fait une erreur. Aide-moi à le fixer. Et tu verras qu'immédiatement, il y a tout le monde qui commence à penser comment on peut aider à fixer ce problème. Et c'est toujours une question de si on a la confiance de l'équipe et vice-versa. si l'équipe a la confiance du patron et vice-versa, c'est tellement facile d'en mettre une erreur. Et c'était quelque chose qui est très, très fort au niveau des cultures. Ouais. Donc, oui, on fait des erreurs, on peut les faire, mais c'est important de les admettre.
Christine, je voulais vous poser une question à propos de la période actuelle qui est très difficile, évidemment, pour tout le monde. Et je voulais savoir quel était le rôle d'un leader dans une période comme celle qu'on vit aujourd'hui. Ça peut être au niveau personnel ou au niveau professionnel, mais vous, j'ai vraiment la sensation, enfin, pour avoir lu tout ce que j'ai lu sur vous, pour voir la manière dont vous parlez, je pense que pour beaucoup d'hommes et de femmes, vous êtes un vrai rôle modèle. En plus des femmes dans le secteur de la finance, vous l'avez dit, il y en a très, très peu. Et ça, ça a un impact, je pense, sur l'énergie, sur la motivation. Est-ce que, du coup, vous avez presque une obligation ou une responsabilité de faire passer des messages, d'avoir un leadership particulier dans une situation qui est une crise quand même sans précédent?
Je crois que, parce que vous avez parlé de niveau professionnel ou personnel, moi, je suis convaincue qu'on ne peut pas faire la différence entre les deux. Je crois si quelqu'un croit de pouvoir jouer un rôle sur le travail, ça ne marche pas. Parce que pour l'équipe, c'est toujours très important de savoir qu'on a une chef qui est authentique. C'est très, très important. Et donc, les valeurs qu'on a dans la vie professionnelle doivent être les mêmes qu'on a dans la vie professionnelle. Et les valeurs sont très simples, à dire la vérité. Pour moi, c'est d'abord de croire dans soi, parce que je crois que chaque personne a tellement d'énergie et tellement de force dans soi-même, mais il faut y croire pour pouvoir l'accéder. Et donc, d'abord, croire en ça, en soi. La deuxième chose, c'est si on a un rôle important, un rôle de management, c'est important d'être courageux parce que pour prendre des décisions, il faut du courage. C'est très important parce que quand on prend une décision, on est seul.
Ouais.
Et donc, il faut être courageuse. Et la troisième chose qui pour moi c'est très important, c'est de toujours se battre pour les choses dont on y croit. Je ne sais pas si le français c'était bien là.
Si, on a compris.
c'est parce que pour l'équipe aussi, c'est très important qu'ils connaissent leur supérieur, leur patron, de savoir quelles sont les choses pour lesquelles le patron se bat toujours et savoir les valeurs pour lesquelles on se bat. C'est important. Donc, c'est croire en soi-même parce que si on ne fait pas ça, on ne peut pas accéder à l'énergie qu'on a. Le deuxième, c'est d'être courageuse. Et le troisième, c'est de toujours, toujours se battre pour les valeurs dans lesquelles on croit.
On ne fait jamais de compromis sur certaines valeurs.
Non. Non.
Christine, si ça vous va, on a beaucoup parlé là de leadership, mais j'aimerais quand même revenir en arrière et notamment sur votre enfance, parce que vous avez une vie qui est tout simplement incroyable. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par m'expliquer ou expliquer à nos auditeurs où est-ce que vous êtes née et peut-être qu'est-ce que vous souhaitiez faire quand vous étiez enfant dans la vie?
Oui, donc je suis italienne, je suis née en Sud-Tirol, dans le Dolomite. Oui. C'est une région incroyablement belle. Et je crois que déjà cette région avait une influence sur moi parce que c'est une région belle, oui, d'un côté, mais de l'autre côté, c'est une région assez, disons, avec des challenges au niveau naturel. Et donc, les personnes normalement de cette région sont des personnes qui se bat toute leur vie. Et quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, j'ai joué le piano, j'ai fait la danse classique et quand j'avais 15 ans, 16 ans, je pensais que je vais devenir une pianiste. J'ai joué à peu près, je sais pas, 4 heures, 6 heures par jour.
Incroyable.
Et pour moi, ça, c'était ma vie. Tout le monde de l'art, c'était pour moi une un rêve. Et ma mère, qui est une entrepreneure typiquement de cette région, très, très solide, qui a dit, non, écoute, un pianiste, c'est un rêve, ça ne marche pas, il faut faire quelque chose de concret. Donc, elle m'a, je ne dis pas forcée, mais elle m'a convaincue de faire l'université, de prendre des études d'économie. Et donc, c'est pour ça que je suis finie dans une banque, parce que, bon, avec j'ai fait la Bocconi à Milan. Et puis, c'était assez facile de trouver un travail chez une banque. Mais le rêve de devenir un pianiste était, je ne sais pas, comment est-ce qu'on dit, on crachait. Et aujourd'hui, malheureusement, quand je regarde un concert de piano, j'ai toujours des larmes dans mes yeux. Parce que toujours, je pense comme il aurait été.
Ouais.
Mais en tout cas, j'ai eu une belle carrière, donc ce n'est pas un problème. Mais il y a toujours ce tout petit truc dans mon cœur que...
Pas un regret, mais en tout cas...
C'est parfois un peu difficile.
Ouais. Vous continuez à jouer du piano aujourd'hui, Christine?
Non, aujourd'hui, à dire la vérité, je n'ai pas le temps. Je joue... C'est pas une fois par mois, mais je sais pas le même niveau.
J'ai vu justement que l'art avait un rôle fondamental dans votre vie, que ce soit la musique ou l'art pictural, on va dire, contemporain notamment. Et il y a quelque chose de très étonnant dans votre parcours, je pense que, évidemment, vous le savez, qui sort complètement des sentiers battus, c'est que vous avez commencé, on va en parler après, votre carrière dans la banque. Et puis ensuite, à un moment donné, vous avez fait comme une parenthèse pendant quelques années, 4-5 ans, si je me trompe pas, où vous êtes retourné dans le monde de l'art. Donc, vous êtes retourné un peu à vos premières amours et en l'occurrence, plutôt dans une galerie. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous avait amené à cette décision. Parce que très souvent, et notamment pour les femmes, on se dit, il faut que je fasse les bonnes études. Il faut que je rentre dans la bonne école. Et ensuite, je vais faire ma carrière. Il y a ce chemin tout tracé. On se marie, on a des enfants, etc. Et vous, vous avez commencé comme ça, mais à un moment donné, vous avez fait cette parenthèse un peu enchantée. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu le courage de prendre cette décision qui est visiblement une décision du cœur?
Bon, c'était 2005-2006 et c'était un moment dans le monde de finances assez particulier. C'était 2 années avant de la crise et déjà, disons, l'industrie avait changé beaucoup il y avait 10 ans, 20 ans. Il y avait un grand changement et parfois j'avais l'impression que les banques ne savaient plus quel est leur rôle. Et alors j'avais 41 ans, et je me suis dit, bon, à 40 ans, on est assez vieux pour prendre ces décisions. C'est pas ma mère qui va me dire ce que je dois faire. Et donc, la combinaison du fait que je pensais que l'industrie était en train de faire des changements que ne me plaisaient pas, je disais, écoute, j'avais 20 ans de carrière dans les banques. La vie est tellement courte. Il faut faire aussi quelque autre chose. Et alors, j'ai décidé de quitter le monde de la finance et j'ai commencé à travailler avec un marchand d'art à Zurich. Et j'ai fait ça pour 5 ans. Et c'était incroyable parce que, évidemment, ce monde est tellement différent. Il y a des personnes tellement fascinantes, les artistes, les collectionneurs d'art. C'est un monde tellement émotionnel. Et venant d'un monde de chiffres, un monde objectif, c'était pour moi comme une autre vie. Et maintenant que je suis retournée au banking et maintenant que je gère la banque privée au niveau d'Europe, l'expérience du monde de l'art m'aide beaucoup parce que beaucoup de nos clients sont des personnages extrêmement émotionnels, extrêmement fascinants. Il y a aussi des collectionneurs d'art. Et donc, comprendre comment on peut interagir avec des personnages tellement différents, c'est très important quand on gère un grand portefeuille de clients. Oui, mais vous avez raison. Pour moi, c'était comme vivre un rêve. Mais évidemment, différent qu'être un pianiste ou une ballerine.
C'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui s'interdisent de vivre leurs rêves, surtout bah voilà, autour de 40 ans. Je voulais vous demander, Christine, est-ce que vous avez eu des doutes ou vous avez eu peur quand vous avez pris cette décision? Parce que, une fois de plus, je pense que c'est assez féminin, mais les hommes doivent vivre aussi peut-être la même chose, qui est de se dire, je suis sur the fast track, ma carrière fonctionne très bien, tout fonctionne, mes supérieurs hiérarchiques veulent me faire une promotion. Et donc, en fait, le chemin est tout tracé. Et c'est un chemin qui est plutôt agréable, puisqu'il se passe bien. Et puis, à un moment, vous avez un rêve qui arrive, qui est complètement autre chose et qui peut vous faire perdre, finalement, du temps dans votre carrière parce que bah, vous allez faire une pause. Est-ce que vous avez eu à un moment un doute pour passer à cette étape? Quel conseil, peut-être, pourriez-vous donner aux personnes qui ont un rêve et qui n'osent pas le saisir parce que justement, ils se disent « sinon, ma carrière va être ratée ».
Je crois que la question la plus importante, c'est que chaque personne doit définir pour soi-même qu'est-ce que ça veut dire faire la carrière et qu'est-ce que veut dire avoir du succès. Alors, si quelqu'un pense que faire une carrière, avoir du succès, ça veut dire progresser dans une grande société et devenir peut-être le PDG de cette, le CEO de ça, bien, c'est une chose. Pour moi, avoir du succès ou faire la carrière, ça veut dire pas faire beaucoup d'argent ou avoir grande responsabilité. Pour moi, avoir du succès ou faire la carrière, c'est avoir eu impact sur une organisation, avoir touché la vie des collaborateurs, et je sais que maintenant ça sent un peu ésotérique, mais j'y crois vraiment, avoir touché la vie d'une centaine, millaine de personnes, et pour le fait que vous êtes le patron, si vous avez réussi de créer une situation de manière que tous les collaborateurs aiment aller au bureau le matin parce qu'ils ils sont motivés, ils travaillent bien, ils ont du succès. Ça, c'est très, très fort. Et pour moi, c'est un grand succès. Et vous voyez, ce n'était pas qu'en 2005, j'avais ce rêve. Ce rêve était là depuis que j'étais une petite fille. Et donc, c'était quelque chose, après que j'avais fait beaucoup de choses, avec beaucoup de succès, j'ai dit, bien, j'ai eu ce que je voulais avoir dans le monde de la finance. Maintenant, je vais voir si j'emploie la même passion dans le monde de l'art, si je peux arriver à être... avoir du succès là aussi. Et je l'ai fait et c'était incroyable. Mais il y avait une chose que je dois vous dire. J'ai eu tellement téléphones de mes collègues hommes qui m'ont appelé et ils l'ont dit, mais comment est-ce que tu peux quitter? Toi, mais tu étais le PDG d'une grande banque en Allemagne, mais comment est-ce que tu peux quitter ce rôle? Alors, j'ai dit, bon, je peux le quitter parce que je l'ai. On ne peut pas quitter un rôle qu'on n'est pas. Alors, j'avais ce rôle, je peux le quitter. Et pour moi, c'était bien. Les femmes qui m'appelaient ont dit, c'est super. Tu es tellement courageuse, c'est super. Vas-y. Et c'est intéressant de voir comme il y avait les hommes qui disaient, toi, le titre, tu as la position, comment est-ce que tu peux la quitter? Bon, tu la quittes parce que tu l'es. Tu es y arrivé et c'est super que tu étais là. Tu as prouvé que tu le peux faire, mais c'est pas quelque chose que je voulais faire pour toute la vie. Et, tandis que les femmes étaient vraiment faisaient les compliments pour le courage que j'ai eu exactement de quitter. Mais c'était vraiment drôle comme ils voyaient la situation différemment.
Finalement, vous avez choisi de revenir dans le secteur de la banque. Ouais. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui a fait qu'après cette parenthèse enchantée de 4-5 ans, vous vous êtes dit, je vais retourner sur des responsabilités? C'était ce besoin d'impact sur un plus grand nombre?
Vous voyez, j'avais quitté UBS en 1996 et l'UBS, à cette époque, était une banque... disons avec une culture et un style de management assez directif, je dirais presque ancien. Et UBS est aussi la banque qui, peut-être plus que beaucoup des autres, était battue dans la crise 2008. Et quand on m'a appelé, c'était 2011, l'UBS m'a appelé à demander si je voulais être part de l'équipe que va à réorganiser l'UBS et à l'aider à devenir une des grandes banques une autre fois. J'ai dit, bon, alors, ça, vraiment, ça va être une challenge très, très fort. Et quand j'ai dit oui, parce que je pensais que ça, c'est une mission très complexe, très intéressante. Comme vous l'avez dit, une situation difficile. J'adore ça. et puis, quand je suis rentrée, j'ai vu que c'était une banque complètement différente de la banque que j'avais quittée. Maintenant, c'est une banque incroyablement internationale, avec une grande équipe aux États-Unis, une grande équipe en Asie, une grande équipe en Europe, et une banque qui met au centre vraiment le client, le service au client, et qui a compris que son rôle est un rôle d'avoir impact dans l'économie et dans la société. Et donc, pour moi, c'était une vraie découverte. Et UBS aujourd'hui, c'est une banque qui est tellement riche au niveau culturel qu'on peut faire tout ce qu'on veut. C'est incroyable. Et l'offre carrière, vous voyez, la discussion femme-homme n'existe pas.
Oui.
Parce qu'elle est vraiment devenue une banque tellement internationale. Et par exemple, toutes les discussions sur femmes et hommes, c'est vraiment une discussion plusieurs européenne. En Asie, ça n'existe pas. En Japon, ça n'existe pas.
Vous voulez dire, est-ce qu'une femme peut avoir un rôle de leadership ou pas?
Oui, alors là, c'est plutôt, je ne dis pas normal, mais on voit plusieurs femmes dans des rôles de leadership, plus qu'en Europe. Ouais. Et donc, pour moi, c'était une vraie découverte. Et je crois, en le sent, oui, je suis très fière d'être là
se
et d'être part de cette team internationale du VES.
Vous avez beaucoup parlé d'impact, alors que ce soit dans le monde de l'art ou que ce soit dans le monde de la banque. Et j'aimerais bien en parler parce que je pense que beaucoup de gens se disent, bon, une banque, l'impact. Et donc, j'aimerais bien comprendre, vous, justement, quels sont les impacts dont vous êtes les plus fiers, les choses dont vous êtes les plus fiers dans le cadre de votre carrière actuelle chez UBS, que ce soit peut-être au niveau humain. Je sais aussi que vous êtes très impliqué sur tout ce qui est responsabilité. Mais vraiment, voilà, quelles sont vos plus grandes fiertés?
Je dirais que UBS, après la crise, a vraiment passé un grand changement culturel. Et je crois que UBS a compris que avec la force qu'on a, avec la position qu'on a dans l'industrie financière, il faut prendre ce rôle et avoir un impact, c'est-à-dire s'engager pour le bon. Donc, qu'est-ce que je veux dire? UBS, par exemple, était la première banque à s'engager avec l'ONU à définir le 17 critères qui permettent à définir un investissement au niveau socialement responsable. Et donc, pour moi, savoir que UBS est prête à renoncer à certains négoces, peut-être, qui sont très, très
rentables.
Rentable et renoncer à faire ça parce que c'est juste de ne pas le faire, c'est quelque chose que me rend extrêmement fière. Et on a commencé à investir dans le thème d'investissement responsable il y a, je ne sais pas, peut-être 10 ans, un peu moins que ça. Et aujourd'hui, on a développé des mandats, on a développé des produits qui sont 100% investissement responsable pour aider tous les clients qui veulent vraiment avoir un impact avec leur fortune. Et on a une équipe qui est vraiment dédiée à ça. Et vous voyez, il y a beaucoup de clients qui ont des intérêts différents. Il y a des clients qui sont intéressés par l'éducation, par la réduction du plastique, par la bonne gouvernance des sociétés. Et là, notre équipe crée des produits 100% responsable au niveau des investissements pour répondre à l'objectif des clients. Et si vous pensez pour un moment que UBS est la plus grande banque privée au niveau mondial, si on réussit à convaincre nos clients avec leur fortune qui est énorme à investir d'une manière responsable, on va vraiment changer les choses. Et je suis extrêmement contente que la banque a compris ça et qu'on marche sur ce chemin avec une conviction qui est extrêmement, extrêmement forte.
Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a un vrai rôle sociétal responsable de l'entreprise.
Oui, absolument. Et d'abord, maintenant, il y a, je crois, 3 semaines ou 4 semaines qu'on a décidé de faire les investissements responsables comme le premier investissement. C'est-à-dire, on a les investissements responsables et l'investissement traditionnel. Et il y a à peu près 3 semaines, je crois, on a décidé que quand un client demande des produits, première chose qu'on fait, on va lui montrer toujours les produits à investissement responsable.
Donc, vous éduquez vos propres clients.
Les produits traditionnels. Surtout parce que...
Vous éduquez vos propres clients d'une certaine manière.
Non, c'est super parce que vous voyez, l'autre chose, c'est qu'il y a quelques années, que les rendements sur les investissements responsables sont meilleurs que le sel de investissement traditionnel. Et donc, il y avait toujours un peu... on pensait toujours que si on veut faire quelque chose de bon avec son argent, il faut souffrir sur les rendements. C'est pas vrai. Ça a vraiment changé.
Super intéressant. Christine, comme le temps passe, je sais que vous êtes très chargée. Je vais terminer par ce que j'appelle le crible du gratin. C'est quelques questions un peu personnelles. J'aimerais bien commencer par vous demander s'il y a eu un moment d'erreur, d'échec ou un moment de doute dans votre vie. Pareil, à niveau personnel ou professionnel, je sais que les deux sont liés pour vous. Et surtout, qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement?
Bon, on vient de parler, c'était vraiment le moment où j'avais un chef, une supérieure qui, au niveau de interaction humaine, il était terrible. Et pour moi, ça, c'était quelque chose parce que j'ai vraiment vu que ton succès dépend de la manière dans laquelle tu interagis avec tes collègues et avec tes collaborateurs. Et ça, c'est une leçon que j'ai prise pas seulement pour ma vie professionnelle, mais aussi pour ma vie privée. C'est toujours une question, comme tu interagis avec les personnes, et ça décide la manière dans laquelle les personnes interagissent avec toi. Et pour moi, ça, c'était un moment clé. J'avais 34 ans. C'était un moment clé et très important qui m'a vraiment formée pour toute la carrière.
Vous avez un exemple, Christine, peut-être dans le cadre de votre vie personnelle, de qu'est-ce que ça a changé dans votre façon d'agir?
Oui, je dois dire que, bon, normalement, Je suis un personnage avec un caractère assez fort. Normalement, j'ai des opinions assez fortes aussi. Et pour moi, c'était le moment où j'ai appris à écouter et j'ai appris à pas juger. Vous vous souvenez, on vient de parler. Ça, c'était très important pour moi. C'est toujours une chose de savoir les choses au niveau théorique, parce qu'on le sait qu'il ne fait pas juger, il faut écouter tous ces trucs-là. Mais le expérimenter sur soi-même, c'est tellement fort comme expérience. Et pour moi, ça a changé beaucoup, même au niveau de mon caractère, de ma manière d'interagir avec les personnes.
L'autre question que je voulais vous poser, c'est la question du temps entre la vie personnelle, toutes vos passions pour l'art, pour la musique, pour votre famille. Je crois que vous aimez aussi les belles voitures et les vieilles voitures notamment. Et la vie professionnelle qui
doit
prendre un temps fou.
Où est-ce que vous avez trouvé toutes ces informations-là?
Mais je farfouille, Christine. Et en fait, j'ai l'impression que vous avez plein de passions, mais en même temps, vous avez une vie professionnelle débordante. J'aime pas tellement poser cette question juste à la femme Christine, parce que je pense que le problème, il est tout autant masculin que féminin. Mais je voulais vous demander si vous aviez appliqué quelques principes, quelques guides qui pourraient nous aider pour nous-mêmes aussi essayer de concilier une vie professionnelle très ambitieuse, ce qui est important, mais en même temps garder justement des niches, des îlots personnels pour nos passions.
Et je crois que ça, c'est très important parce que si on n'a pas le temps pour soi-même, pour la famille, pour ses passions, ça va avoir une conséquence sur la performance professionnelle. Et donc, c'est très important de se prendre le temps d'être jaloux du temps privé parce que ça te donne la force et l'énergie de faire la performance dans la vie professionnelle. Bon, moi, je suis extrêmement privilégiée parce que j'ai un mari et une fille qui sont très fiers de ce que je fais et que supportent. Et ça, vraiment, fait tout assez facile, je dois dire, parce qu'il comprend qu'il y a peut-être des week-ends où j'ai pas le temps et il ne dit rien, il ne me donne jamais une mauvaise
conscience.
Exactement. Et donc ça aide beaucoup, parce que je crois que si une femme ou un homme veut faire de la carrière, c'est toujours la famille qui doit l'accepter, doit le supporter, et moi j'ai ça, et donc c'est fondamental.
Vous avez dû, Christine, je suis désolée de vous interrompre, avoir une discussion avec votre fille ou avec votre mari pour leur dire la carrière est quelque chose de très important pour moi, ou ça a même peut-être pas été nécessaire.
Je peux vous donner un exemple. Nous avons une fille, elle a 16 ans. Nous l'avons adoptée quand elle avait 10 ans et demi. Et c'était un moment très, très difficile. Et quand elle avait 11 ans et demi, je lui ai posé la question si elle voulait que je quitte le travail, parce que je disais, écoute, si tu veux que je suis là pour toi, ton père et moi, on a décidé de te adopter et donc tu es la chose la plus importante. Et je suis prête à quitter le travail pour toi. Et elle m'a regardée, elle avait 11 ans, elle m'a regardée, elle a dit, bon, mais le travail te fait heureuse. Et je lui ai dit, oui, je l'adore. Elle a dit, je veux une maman qui est heureuse. Et pour moi, ça, c'était le moment que c'est dit tellement beaucoup, parce que si tu travailles avec passion et si tu as une famille qui te supporte, automatiquement, tu es heureuse. Si tu es heureuse, tu es heureuse aussi au niveau personnel, dans la vie privée. Et ça te donne beaucoup d'énergie pour être performante dans la vie professionnelle. Donc, pour moi, l'un a besoin de l'autre.
Merci beaucoup, Christine, pour ces partages. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie où vous estimez que si c'était à refaire, vous aimeriez le faire différemment ?
Oh, il y en a beaucoup. Oui, écoute, j'ai fait tellement des erreurs dans ma carrière et même dans la vie privée. Oui, il y en a beaucoup. Mais d'autre part, je dis toujours, ce sont aussi les erreurs qui influencent la manière dans laquelle tu développes. Mmh. Et donc, je crois, je suis contente où je suis aujourd'hui au niveau professionnel. Je suis ravie où je suis aujourd'hui au niveau privé avec mon mari et ma fille. Et donc, je crois que si je ferais quelque chose de différent, le chemin aurait été différent. Donc, oui, il y a des choses que si je serais aujourd'hui dans la même situation, peut-être je prends une décision différente parce que j'ai une expérience maintenant différente. Mais j'ai pas vraiment des regrets. J'ai pas vraiment des situations où je dis, alors là, c'est à cause de ça que je dors pas. Ça n'existait pas. Je crois que toutes les expériences, toutes les erreurs te forment. Et te forme et forme aussi le chemin que tu prends. Et donc, je suis aussi, ouais, je suis content où je suis aujourd'hui. Donc, non, mais c'est vrai, je fais beaucoup d'erreurs.
Mais c'est pour ça que vous en êtes là où vous en êtes, parce que vous avez appris à chaque fois de vos erreurs.
Probablement, oui.
Christine, est-ce que vous avez une maxime, des mots de sagesse ou tout simplement un message que vous aimez partager, quelque chose d'important auquel vous croyez que vous aimez partager, que vous pourriez nous partager?
Bon, vous rappelez, j'avais dit que je suis née dans cet petit village sur Tirol.
Ouais.
Et mes parents étaient des entrepreneurs, travaillaient beaucoup et ils avaient une manière d'affronter les problèmes. Ma mère disait toujours, écoute, rien n'est si mauvais de n'avoir pas une chose qui est positive. Il faut la trouver. Parce que c'est ça que t'aide à trouver la sortie du problème. Et il disait aussi, problème n'existait pas, seulement les solutions. Et donc, si on a ça dans la tête, on approche des problèmes ou des crises d'une manière différente, parce que on est dans la situation qui peut être une crise, et on pense pas à la crise, mais on pense seulement à la solution, à la sortie de la crise. Et ça, c'est très important. C'est une manière d'approcher les situations. Mais il y a en France un mot de dire, je crois c'est de Napoléon qui dit l'impossible, ça n'existe pas en France, ou ça n'existe pas en français. Et c'est un peu la manière...
L'impossible n'est pas français, quelque chose
exactement,
comme ça.
Exactement, ouais. L'impossible n'est pas français. Et je crois ça, c'est une manière d'approcher la vie très, très forte, de croire dans ce qu'on a, dans l'énergie et la volonté, parce que si on a l'énergie et la volonté, on peut faire tout. Donc, pour moi, c'est ça.
C'est vrai que quand on se dit que vous étiez une petite fille qui devait se destiner à la musique dans un village de Sud-Tirol et que maintenant vous êtes PDG du BS Europe, on se dit que rien n'est impossible.
Exactement.
Christine, ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a un ou des livres que vous estimez être absolument fondamentaux dans votre vie, dans votre carrière, dans votre parcours et que vous pensez que beaucoup de gens devraient lire?
Bon, maintenant je peux citer beaucoup de livres de littérature que j'aime ou de philosophie que j'aime, mais à risque de vous surprendre, un de mes livres préférés, c'est Fifi Brindacier.
Ah. Oui. Alors là, oui, vous m'avez surpris.
Oui, parce que, et c'est maintenant, c'est une discussion que j'ai maintenant avec ma fille, parce que Fifi, c'était une fille très, très courageuse, avec un grand, grand cœur, très créative, et elle s'est battue toujours, toujours pour ses amis. Et pour moi, c'est un caractère qui a toutes les valeurs qui, pour moi, sont très importantes pour réussir, pas seulement dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie privée. Être courageux, être créatif, se battre pour les amis, mais surtout avoir un grand, grand cœur. Pour moi, ce sont des forces et des valeurs qui sont la base, le plus important. Et maintenant, je suis en train de discuter avec ma fille comment on peut prendre ces valeurs et le vivre chaque jour, même dans les moments difficiles, avec le grand cœur, même dans les moments difficiles. Mmh. Et qu'est-ce que ça veut dire se battre pour ses amis? Parce que maintenant, elle a 16 ans, ce sont les années un peu difficiles. Et donc, c'est très important d'avoir une discussion sur les valeurs. Et alors, comme j'avais dit, je suis un grand fan de Fifi.
Ben écoutez, ça me donne envie de relire Fifi. Je crois que je l'ai lue très petite, je ne m'en rappelle pas très bien. Mais vous m'avez donné une prochaine idée de lecture. Donc, je vous remercie mille fois. Christine, je vous remercie pour tout votre temps. Je vous remercie d'avoir répondu avec autant d'honnêteté, d'humour à toutes mes questions. Si jamais on veut vous retrouver, si jamais on veut essayer de vous suivre, donc évidemment via la banque UBS. Sinon, est-ce que vous êtes présente peut-être sur Twitter, sur LinkedIn, quelque chose où on pourrait suivre toutes vos aventures et vos valeurs justement?
Oui, je suis sur LinkedIn.
Ouais. D'accord. Très bien. Eh ben, je vous remercie mille fois. Je vous remercie pour tout votre temps et puis j'espère avoir l'occasion de vous voir peut-être un jour à Zurich.
J'espère aussi. C'était très, très joli le temps maintenant et je vous remercie pour les questions qui étaient très personnelles. J'expectais quelque chose de différent. C'était très, 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 très bon pour moi. Super. Eh ben, merci.
Moi aussi. À bientôt, Christine. Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, bah c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur. Et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc sous le pseudo Pauline Legnaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi et je sais que c'est pénible à faire mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute et avoir des notes en fait permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, bah c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand, grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.